C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Trois ados ont été tués à Montréal depuis le début de l'année, le tout dernier. C'est Thomas, 16 ans, qui a été assassiné froidement, à bout portant. La police est en train de faire l'enquête. Il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas d'indication non plus sur la cause de ce meurtre. Mais ça s'ajoute à cette flambée de violence qu'on connaît avec la prolifération des armes à feu dans plusieurs arrondissements de Montréal. Est-ce que ce décès, ce troisième, va faire la différence dans la lutte contre les armes à feu? Luc, la question t'est posée.
Ben, moi, je me rappelle avoir dit, attention, c'est pas si grave que ça, Montréal est encore une ville beaucoup moins violente que les autres villes canadiennes. D'ailleurs, le Québec, en règle générale, est la quatrième province la moins violente après l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, le Yukon. Donc, par rapport aux grosses provinces, on est vraiment moins violent. Et je me suis dit, ben, le taux de criminalité a pas beaucoup augmenté, sauf les meurtres, mais c'est pas si pire encore. Sauf que, et même le meurtre de Myriam Bendaoui, je m'étais dit, bon, ben, c'est une balle perdue. Donc, un jeune qui tire en l'air ou tire en direction générale de je sais pas quoi, des oiseaux, des pigeons, des écureuils, puis qu'il y a une balle perdue, c'est quand même un accident. La perte de Myriam Bendaoui est un drame extraordinairement triste, mais c'est quand même un accident. Tandis que les deux qui ont suivi, Janaï Dopoel-Bélé, puis l'autre, donc il y a quelques jours, Thomas Trudel, ça, c'est ce que les Français ont appelé, à tort ou à raison, de l'ensauvagement. C'est-à-dire un type de crime qui n'entre pas dans notre compréhension du monde. Tu sais, quand les gangs de motards se tiraient dessus, il y avait une raison pour se tirer dessus. Tu m'as volé mon marché, toutes des mauvaises raisons. Mais tu sais, il y avait des raisons. Mais là, arrêter, tuer au coup de couteau un jeune homme et le célébrer sur YouTube après avec une musique rap, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Tuer un jeune dans la rue qui n'a rien fait. Juste, je le vois, puis là, la police pense que c'est peut-être une initiation. Tu sais, va montrer que t'es un vrai, prends un gun, fais quelque chose avec. Ça, c'est quelque chose d'une brutalité, d'une méchanceté, d'une déshumanisation qui fait froid dans le dos. Et là, moi, je suis à l'époque, à la place où je me dis non, non, non. Le message sur les armes à feu, ça suffit pas, là. Ça suffit pas de dire il y a plus d'armes à feu qui rentrent. Oui, il y a plus d'armes à feu qui rentrent. Oui, c'est le fédéral qui devrait les contrôler, mais il y a quelqu'un qui tient ces armes-là.
Nathalie.
Ben, ignoble, lâche, horrible, abject, tous les qualificatifs sont bons pour traduire le sentiment qui habite beaucoup de gens au Québec actuellement, parce que c'est une nouvelle, évidemment, qui a été largement relayée dans les médias sur l'échelle nationale. Alors, il y a, oui, beaucoup de gens qui ont eu un choc en apprenant cette nouvelle. Tu l'as dit, Luc, il n'y a aucune raison qui puisse justifier le décès de trois adolescents. Là. Trois adolescents, c'est février, octobre et novembre. Là. Tu dis, attends une minute, là. Moi, à ta question, Paul, j'espère que ce sera le décès qui va faire la différence. Espèce de point de rupture où on va dire non. Là, c'est terminé. Et j'ai évidemment, on a senti toute la compassion dont est capable la mairesse. Là. On la sentait très émue hier, Valérie Plante, lorsqu'elle a pris la parole. Même chose pour Sylvain Caron, le chef de police. Même chose pour Chantal Rouleau, ministre de Montréal, qui a répété, ça suffit, mais ça ne suffit pas, de toute évidence. Alors, la réponse doit être à la fois policière, mais également politique. Et c'est sûr que ce matin, beaucoup de regards sont tournés vers Ottawa pour dire, ben là, vous faites quoi, là? Parce qu'on ne pourra pas tolérer plus longtemps ce qui arrive. Et moi, j'imagine très, très bien, je souhaiterais que la mairesse exerce son leadership. T'sais, oui, c'est beau de dire que Ottawa a une responsabilité, on convient tous de ça. Mais il faut absolument qu'elle ait cette responsabilité de fédérer les deux paliers de gouvernement autour de son administration pour dire, là, il faut poser des gestes très, 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 très forts. Parce que je ne l'ai pas encore entendu dire « tolérance zéro ». Tolérance zéro, c'est terminé, là. Ça, c'était le décès de trop, le meurtre de trop. Alors, ça va prendre énormément, non seulement de volonté politique, mais la police, puis on sent... Je t'entendais un peu plus tôt, Paul, faire un commentaire sur ce qui s'est passé, là, à l'endroit du décès de ce jeune de 16 ans, Thomas. Sylvain Caron, hier, moi, je le sentais, là, il nous a dit, là, tous les policiers sont à pied chef-d'œuvre à Montréal. Je peux pas croire que 5000 policiers, on trouvera pas une façon de neutraliser tous ces groupes qui sévissent à Montréal. Ça peut pas être une petite clique qui, dans le fond, hypothèque la sécurité d'une ville de la taille de Montréal. Je peux pas croire que ça va être notre façon de fonctionner pour le futur. Je peux pas croire ça.
Aux États-Unis, quand il s'est passé dans les années 90, quand il y a eu une augmentation de la violence et du type de violence, un peu comme il est en train de se passer avec les trois cas dont on parle, mais surtout deux en particulier, ici, il y a eu une radicalisation de tout le monde, y compris des démocrates, pas juste des républicains. C'est Clinton qui a resserré les lois et les règlements sur la criminalité, à telle enseigne d'ailleurs que ça a fait doubler le nombre de personnes incarcérées aux États-Unis. Ils ont allongé les peines, ils ont interdit la libération conditionnelle, etc., au tiers de la peine pour certains crimes. Et ça, c'est une catastrophe en soi aussi, là, parce que ça, c'est une forme de perte de contrôle de la société, parce que là, tu varges dans le tas, puis après ça, il y a une radicalisation des groupes, puis après ça, eux se radicalisent et commettent encore plus de meurtres. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas eu de solution aux États-Unis.
Mais d'ailleurs, mais c'est intéressant ce que tu parles, la perte de contrôle, parce qu'il ne faut pas que dans la perception, à un moment donné, on ait cette impression que les autorités ont perdu le contrôle de la situation.
Oui, c'est ça. Ou alors que la population est tellement enragée qu'ils se mettent à mettre des contrôles tellement radicaux qu'ils ne servent à rien. Là où il faut travailler, c'est sur la lutte à la pauvreté et à la criminalité chez les jeunes.
Oui,
et là,
fait.
Je vais vous donner un chiffre. Là, parce que Mme Plante, elle a dit ça. Il faut lutter contre ça. Là, hein? Puis on a mis... Les budgets sont à peu près 3 millions par année, vont passer à 5 millions. Donc, un doublement des budgets. Dans le même budget, on a décidé d'augmenter les équipes qui travaillent à la conception des nouvelles bibliothèques. Une nouvelle bibliothèque, avant, ça coûtait 10 millions, après ça 20 millions, après ça 30 millions, puis il y en a autour de 60 millions maintenant. Bien, juste l'équipe de conception on met 30 millions dans l'augmentation des budgets pour l'équipe de conception des bibliothèques. 5 millions pour la criminalité, 30 millions pour les bibliothèques. Ça, c'est une décision bourgeoise. Parce que dans les bibliothèques, c'est des jeunes éduqués qui vont là, c'est des jeunes qui n'ont pas de troubles de société, qui n'ont pas de troubles d'apprentissage. C'est des jeunes qui s'inscrivent dans le parcours normal d'un jeune. Et on a besoin des bibliothèques. Mais comparons quand même les chiffres. Et moi, je dis, il faut tout changer. Il faut tout changer, il faut tout virer cul par-dessus tête. Il faut mettre beaucoup plus d'argent dans l'éducation.
Ouais.
Il faut mettre de l'argent dans les écoles où ça va mal à Montréal, à Montréal, Rivière-des-Prairies, Ville-Saint-Michel. Des écoles où il y a des taux de décrochage stratosphériques.
Mais il y a une chose que je parlais avec un intervenant ce matin, vraiment quelqu'un là, de communautaire, puis dans la rue, là. Il parle de tout ça, là, les armes, puis la facilité avec laquelle on tire, le moins de petits conflits. On n'est pas dans des gangs ou des batailles de territoire. Mais il a ramené le rôle des parents. Puis l'absence d'encadrement. Puis l'absence...
Père manquant, fils manqué.
Ben, c'est un peu... Tu sais, je me souviens de Barack Obama qui avait interpellé les jeunes pères noirs aux États-Unis parce que dans les ghettos, il y avait de la pauvreté, mais il y avait aussi des enfants abandonnés, puis qu'il n'y avait pas de modèle masculin. Puis il avait fait cette espèce d'appel en disant « Hey, les gars, vous avez une responsabilité. » C'est un peu ça aussi qui est en train de nous dire, cet intervenant-là, que les parents ont une responsabilité pour savoir qu'est-ce qu'ils font, vos enfants, vos ados, quand ils sont devant l'écran, puis quand ils partent le soir, puis qu'ils rentrent tard, puis êtes-vous capable de savoir... Puis quand ils ont 15-16 ans, c'est quoi leurs activités?
Nathalie, moi j'ai une réponse toute prête à ça, mais je me rends compte que j'ai parlé bien plus que toi. Qu'est-ce que tu veux?
Non, vas-y. Okay, non, alors, mais moi, vas-y, puis je vais réagir après.
D'accord. Donc, il y a une différence entre faire un appel à tous, puis de faire un suivi. T'sais, il y a des villes qui ont réussi à régler l'itinérance, je vais prendre ça comme analogie. Il y a des villes qui ont réussi à régler l'itinérance dans le monde, dont Helsinki, la santé mentale dans l'itinérance. Tous les jours, on contacte les personnes itinérantes avec des problèmes de santé mentale et on interagit avec eux tous les jours. On a leur nom. C'est pas juste quand tu auras des problèmes ou quand vous voyez qu'il y a des problèmes, va-t'en d'urgence. Non, on a leur nom, on les contacte, on va les voir. La mère monoparentale haïtienne qui travaille 40 heures semaine comme préposé aux bénéficiaires, qui a 4 enfants, qui a plus de père depuis longtemps, faut l'aider plus que ça.
Voilà.
Faut pas juste faire un appel à tous, là. Faut l'aider,
exact.
Elle, précisément elle.
Ben puis voilà, ce que j'avais pour dire, quand j'entendais pas là, parler des pères, je pensais au cri du cœur des maires de Montréal-Nord. Rappelez-vous, il y a quelques mois, qui ont même lancé une pétition pour interpeller le gouvernement. T'as tellement raison, Luc. La pauvre femme a fait quoi, elle? Écoute, elle est débordée, là. Elle n'en peut plus. Elle les a pas, la solution. Oui, il faut l'aider. Ça, c'est concret, là. Alors, il faut demeurer, comment dire, à l'écoute. C'est sûr que c'est pas simple, là, mais en même temps, je me dis, faut pas baisser les bras. Et l'autre commentaire que je souhaiterais faire, c'est durant la dernière campagne, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Luc, mais durant la dernière élection qui vient de se terminer, là, les Montréalais, avec le résultat qu'a obtenu Valérie Plante, n'ont pas tenu rigueur à leur mairesse pour ce qui est de l'enjeu lié à la sécurité par la lutte et au contrôle des armes à feu dans sa ville. Mais cette fois-ci, avec un deuxième mandat, je pense qu'elle n'aura pas de deuxième chance. En fait, ce que ça prend, c'est il faut que les colonnes de chiffres, il faut que ça apparaisse sur les colonnes de chiffres. Là. C'est-à-dire que, oui, on a saisi quoi? 575 armes depuis le début de l'année, je crois. Mais il faut que ça, faut que ce chiffre-là aille en augmentant. Il faut que le nombre de crimes, lui, aille en diminuant. La mort de Myriam, de Jeanne et de Thomas, ça doit s'incarner. Il faut pas juste, évidemment, faut pas juste dénoncer puis dire c'est épouvantable. Il faut vraiment que la mairesse et son administration exercent son leadership sans précédent sur une question qui est aussi sensible que celle-là.
Bien, on s'arrête pour la pause. Pour retour, pied de cochon, prestations fédérales, pénurie de main-d'œuvre. C'est au menu.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, on parle de pénurie de main-d'œuvre avec intensité depuis l'automne, mais elle était réelle durant l'été, elle était réelle avant même la pandémie. C'est évidemment, c'est accru, on le voit partout dans tous les milieux. On demande des travailleurs. Arrive cette saga du restaurateur Martin Picard au pied de cochon qui offre un emploi à salaire minimum, puis là, ça part. Et là, tu dis, OK, mais c'est-tu les programmes d'aide au fédéral qui ont fait en sorte que les gens sont restés plus longtemps loin du milieu du travail, du marché du travail? Salaire minimum, mais est-ce que c'est à la hauteur en 2021 quand on veut trouver un logement à Montréal qui coûte une beurrée? Nathalie, tu commences.
Ben, il semblerait qu'il n'y ait aucun lien entre la fin de la PCRE et la pénurie de travailleurs. Pourtant, on y a cru. Rappelez-vous à quel point c'était un enjeu durant la dernière élection. Il fallait plusieurs intervenants. Les citoyens réclamaient de la fin de la PCRE. Et là, depuis le 23 octobre, silence radio. C'est-à-dire que les employeurs n'ont pas vu beaucoup de différence dans l'accès à la main-d'œuvre. En fait, je me disais, la PCRE est devenue une espèce de symbole durant la dernière campagne des Québécois face aux abus qu'on a constaté avec la PCU. Faut juste se rappeler que PCU, PCRE, là, au Québec, c'est un peu plus de 2 millions de Québécois qui ont touché à ces deux programmes durant la pandémie. Donc, ça a fait vraiment une différence. Maintenant, pour ce qui est de la pénurie de travailleurs, clairement, le gouvernement devra nous donner des réponses plus satisfaisantes, mais les gouvernements plutôt au cours des prochaines semaines, prochains mois. Je pense entre autres au fédéral qui traîne de la patte pour ce qui est des programmes d'emploi temporaire. Là, il y a un backlog actuellement, puis il y a des employeurs qui s'adressent au fédéral pour dire régler nos dossiers parce qu'on a besoin de nos travailleurs étrangers au sein de nos entreprises.
Oui, mais, moi, je suis pas sûr que ça va se régler, même avec l'immigration. Parce que ça semble être une vague de fonds importante et difficile à comprendre, d'ailleurs, parce que le taux d'activité des Québécois a pas diminué. Le taux d'activité est même en légère hausse. Donc, comment ça se fait qu'il manque autant de monde? Va falloir recommencer à regarder d'un coin, là. Le spot au milieu de la pièce ne fonctionne pas. Il faut regarder d'un coin comme une lampe de poche. Sont où les travailleurs? J'ai une couple d'hypothèses, moi. Premièrement, je pense qu'il y a les deux bouts du spectre. Un bout du spectre, il y a un enrichissement des Québécois qui est sous-estimé, complètement sous-estimé, qui vient de trois sources. Valorisation de la propriété, les propriétés valent plus cher. Puis ceux qui ont la chance d'avoir une propriété avec des logements en haut de chez lui, il s'est passé quelque chose là pendant 10 ans. Les logements ont augmenté de prix, les taux d'intérêt ont baissé de prix. Fait que la profitabilité, il y a des gens qui font beaucoup d'argent à être propriétaires. Deuxième élément, les héritages. Ça se compte en trillions de dollars sur 20 ans parce que c'est les baby-boomers qui commencent à décéder. Et troisièmement, la bourse. Donc ça, c'est chez les plus riches. Je dis pas que ces gens-là arrêtent de travailler. Je dis que toutes sortes de petits réflexes, il va falloir regarder avec une lampe de poche, comme par exemple la semaine de 4 jours ou la semaine de 3 jours. Comme par exemple l'âge de la retraite un peu plus actif. Ou comme par exemple accepter des conditions de fournir de l'argent à leurs enfants, un logement à leurs enfants, etc., qui réduisent leur nécessité, leur exigence d'aller travailler. À l'autre bout du spectre, chez les personnes plus démunies, on a vu aussi des phénomènes comme augmentation du taux de maladie. Il y a eu une énorme augmentation du taux de maladie en 2021. Ça a doublé les prestations pour maladie qui sont liées à l'assurance emploi. D'habitude, c'est 133 000 par année. Là, c'est 133 000 sur 6 mois. Oui, la pandémie a entraîné des problèmes d'augmentation des problèmes de santé mentale, mais un doublement, c'est énorme. Le temps partiel, le retour aux études. Il y a des employés.
Le changement de carrière, si
le changement de carrière. Il y a des employés qui disparaissent. Et il va falloir commencer à regarder ça un peu plus précisément.
Ouais, mais Luc, il y a quand même, au 7 novembre, il y a 215 250 chômeurs au Québec. Okay? Ça, c'est les données officielles. Et il y a 180 000 postes de disponibles. Évidemment, l'équation facile, ce sera dit, ben voyons donc, on a juste à claquer des doigts et puis le problème est réglé. On permet à tous ces chômeurs de retrouver un job,
ouais, ça,
et c'est
ça
réglé.
Marche pas, ouais.
Mais non, effectivement, ça ne fonctionne pas. Il y a un élément qu'il ne faut pas négliger pour trouver des solutions à la pénurie de travailleurs, c'est la fiscalité. Combien de gens écrivent pour dire j'ai 60 ans, par exemple, puis j'ai décidé de faire, je reçois ma régie des rentes, par exemple, ou ma pension, ou un petit fonds de pension, ou encore, il n'y a pas de revenus, puis les gens disent, ben là, je retourne une coupe d'heure, mais je me fais, évidemment, l'impôt, fait en sorte que ça ne devient plus intéressant d'aller sur le marché du travail.
Alors, mais Nathalie, il n'y a pas eu un crédit d'impôt du gouvernement, genre, ça a coûté 330 millions au gouvernement.
Francis Weiss, dans la presse, effectivement, ouais. 333 millions. C'est un crédit d'impôt pour permettre aux gens de demeurer plus longtemps sur le marché de l'emploi. Ça n'a pas les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que la fiscalité est un désincitatif à demeurer sur le marché du travail. Malgré le crédit d'impôt, selon moi, là, c'est le levier sur lequel doit jouer le gouvernement. Combien de gens nous disent pourquoi on impose des heures, le travail supplémentaire, par exemple? Pourquoi on m'imposerait sur le 10, 15, 20, 25 heures que je fais dans la semaine? Je sais pas, est-ce qu'on peut être créatif sur le plan de la fiscalité? Par exemple, t'imposes pas les 10 premières heures que tu fais. Mettons, t'as 60 ans, tu continues sur le marché du travail, tu fais 20, 25 heures de plus par semaine. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer donc une fiscalité créative, je sais pas, on impose à des taux réduits les 10 premières heures, puis enfin, vous comprenez?
Mm-hmm.
C'est pas simple à régler, mais en même temps, c'est pas vrai que le gouvernement n'a pas de moyens d'intervenir.
Mais t'as un bon point, là, parce que l'âge moyen de la retraite, 62 ans, le pourcentage de travailleurs dans la tranche 60-65 ans est très faible aussi, puis dans 65-69 ans, encore plus. Il paraît que c'est en légère augmentation, mais loin d'être suffisant. Avant de faire venir des immigrants, puis qui ne parlent pas la langue, moi, je pense qu'il faut d'abord régler ce problème-là.
Ah non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas un ou l'autre. Par exemple, là, cette semaine, je voyais dans le Journal de Montréal, Danny Zampini, là, qui a un abattoir dans la région, dans l'Épiphanie, lui, il fait venir, il y a 4 Mexicains à son embauche, OK? Ces quatre Mexicains, ils payent 40 à 45 000 $ par année dans un abattoir. Moi, je connais pas beaucoup de Québécois qui vont aller travailler dans des abattoirs. Ils connaissent le travail, mais les règles du fédéral font en sorte que les gars doivent retourner chez eux 4 mois, ils doivent revenir après. C'est une affaire qui n'a pas de bon sens. Ce qu'il dit, dans le fond, est-ce qu'on peut simplement les accueillir, les Mexicains, là? Ils connaissent le travail. Mais moi, l'autre, Luc, pour moi, dans la tête, c'est pas l'un et l'autre. C'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Puis l'autre élément qu'il ne faut pas négliger au Québec, on est la province qui a le taux de syndicalisation le plus élevé. Combien actuellement de gens qui ont travaillé dans la fonction publique, dans la police, qui ont fait ça pendant 35 ans, vont prendre leur retraite? Ils vont se retrouver à 58 ans, même pas 60 ans. Puis là, ils retirent leur fonds de pension, puis ils s'ennuient à la maison. Ils veulent retourner sur le marché du travail, mais il se passe quoi? Ah, ben, l'impôt vient tout manger, gruger ce qu'ils font de plus. Ça, c'est faut pas négliger ça, là.
J'aimerais revenir au pied de cochon.
Oui.
À 13,50 $ là. Est-ce qu'on peut joindre les deux bouts avec un salaire de 13,50 $ et surtout s'il n'y a pas de place en CPE pour faire garder tes enfants? C'est quoi? Il y a des difficultés pour les villes, les grandes villes, en particulier pour Montréal. Le modèle n'a pas été réfléchi pour Montréal. Là, s'il va falloir commencer à réfléchir, il y a une différence, puis je le dis tout le temps, il y a une différence entre habiter à Montréal puis habiter à Lens-aux-Griffons. Il y en a une différence de prix. Puis les systèmes d'État ne sont, que ce soit le salaire minimum, les places en garderie, les places, l'éducation, le salaire des professeurs, rien ne fait n'a été pensé pour souligner cette différence-là, pour répondre à cette différence-là.
Oui, mais c'est pas seulement la responsabilité des gouvernements, c'est la responsabilité aussi des employeurs, là. Martin Picard, on l'adore, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on peut offrir un salaire en cuisine avec les pourboires pour un cuisinier à quoi? À 19 $ de l'heure, sachant qu'à Québec, par exemple, tu as des plongeurs qui sont payés à 23 $ de l'heure. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, puis que je comprends toujours pas, là. Alors, c'est pas seulement la faute. Oui, les gouvernements ont des responsabilités, mais les employeurs, d'abord et avant tout,
Les employeurs ont fait un effort. Là. Dans la restauration, les salaires ont augmenté de 11 %.
Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait d'effort.
Mais ce n'est pas suffisant.
Ben, c'est-à-dire que...
Mais là, je te renvoie quand même la facture, parce que...
Oui,
là, tu sais, les gens disent c'est épouvantable, puis c'est vrai, là, tu sais, tu peux pas vivre, mettons... Mais t'es prêt, comme consommateur, à encaisser à quelle hauteur?
La question est posée, là.
On a déjà commencé à
C'est pour ça que je parle d'aide au logement, puis d'aide à la garde des enfants, etc., et non pas juste le salaire. Le salaire, c'est important, mais il y a plein d'épiciers qui ont dit « ma marge, c'est 5 %. » Si je suis pas capable d'embaucher du monde, que j'augmente les salaires, c'est clair que ça va se retrouver dans le panier d'épicerie.
Merci. On vous retrouve, évidemment, demain.
C'est 23.